Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Toute la prochaine heure va être consacrée à ce qui me paraît être un enjeu de santé publique majeur. Mais comme bien d'autres choses importantes au Québec, on n'en parle pas. Ça fait qu'on a décidé, nous, d'en parler pendant une heure. Et puis, ce ne sera pas trop pour parler de santé mentale, parce que d'abord, un, c'est le début de la semaine nationale de santé mentale. C'est important. Vous savez que l'OMS estime qu'en 2020, ça va être la dépression qui va être la deuxième cause de maladie et d'incapacité après les maladies cardiovasculaires. Deuxième cause de maladie. Sans parler là, des burn-out, les maladies professionnelles. Ça, la maladie professionnelle, c'est moins pire. T'sais, tu peux avoir une maladie professionnelle, à la rigueur, ça montre que tu as beaucoup travaillé dans ta vie. Là. Mais tu sais, avoir être bipolaire, être vraiment très déprimé, avoir des problèmes de schizophrénie. Ça, le monde te regarde bizarre encore. T'sais. Là, les gens disent, « Ah, c'est une personne faible, ça. Pas capable de passer à travers la vie. Voyons, Seigneur! » C'est pas évident de parler de ça, ça reste encore un grand tabou. Et je pense que cette semaine, ça devrait être l'année. Mais on va prendre une semaine, regarde, c'est mieux qu'une journée. On va prendre la semaine et nous, on va prendre l'heure pour en discuter. Ce qu'on voulait vous faire entendre aujourd'hui, c'est des gens qui vivent au quotidien avec la maladie mentale. Puis la maladie mentale, ça vient, ça va. On n'est pas forcément pris dans une maladie mentale toute la vie. Et si vous dites, oh oui, mais ça, c'est d'autres mondes, ce sera pas moi. Attention. Tout le monde peut éventuellement un jour avoir un trouble qui fait en sorte que ta santé mentale est plus tout à fait celle qu'elle était. Personne n'est à l'abri de ça. On peut tous avoir un événement déclencheur dans la vie qui nous mène là où on pense qu'on n'ira jamais. Puis en même temps, vous avez vu en fin de semaine, c'était les funérailles de la petite Rosalie. La petite Rosalie Gagnon, 2 ans, vous savez, bon, c'est comment elle a fini, cette pauvre enfant-là. Assassinée apparemment par sa mère, qui, enfin, c'est la première suspecte, qui a été d'ailleurs accusée d'avoir tué sa fille. Et là, on dit, bon, il y avait de la santé mentale probablement là-dedans, puis je me dis, bon, peut-être qu'on l'a échappé, celle-là. Faut quand même le dire. On l'a échappé, personne ne s'en est occupé, on était occupé à d'autres choses. On a échappé la mère, qui va passer probablement sa vie en prison, puis on a échappé le bébé, qui a fini dans une poubelle. Moi, ça m'écœure. Ça m'écœure que tout le monde justifie, en plus, pourquoi il n'était pas là? Mais il n'était pas notre fond. D'autres à la DPJ, hein? Puis nous autres au CLSC. Ouais, là, le CLSC, on va en parler demain, fait que je ne vous emmène pas trop là-dessus. Mais c'est la faute de personne, la famille, les parents, le village au complet, qu'on dit que ça prend un village. Il était où, le village? On est où? Pourquoi on n'en parle pas de ces problèmes-là? Alors, je vais vous présenter tout de suite mes invités. Voilà, je voulais juste vous dire ça, parce que moi, ça a le don de me fâcher. On en a tous. J'en ai dans mon entourage, j'en ai dans ma famille. On peut tous avoir ce genre de problème-là. Florence K. le sait, parce qu'elle se... Elle a écrit là-dessus, elle chante, elle a décidé d'en parler. Merci Florence d'être
ça
là.
Ça me fait plaisir. Puis écoute, ton introduction était vraiment, vraiment intéressante parce que je pense que tu as réussi à englober puis à résumer les enjeux actuels. Puis si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce que tu disais dans le cas de la petite Rosalie, c'est que le jour où le gouvernement va se rendre compte que la prévention en santé mentale, c'est de la prévention du crime, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la violence conjugale. Peut-être que le jour où est-ce qu'on va réaliser que travailler en amont, que donner des ateliers sur la gestion des émotions puis le développement socio-affectif au primaire, dès le primaire, peut-être que la journée où est-ce qu'on arrêtera de couper dans tout ce qui est l'art-thérapie, le théâtre, tout ça, on se rendra compte qu'on va sauver, parce qu'on parle toujours en termes d'argent quand on parle du gouvernement, on va sauver beaucoup d'argent dans les prisons, dans le système judiciaire. Le problème aujourd'hui, c'est que le travail en amont n'est pas assez effectué.
Et on a coupé beaucoup dans
les
services.
Mais c'est complètement dommage parce que c'est de la prévention du crime.
Toi, tu vis avec un trouble bipolaire de type 2.
Oui.
Qui est différent du type 1, on va y revenir, tu vas nous rappeler ton histoire. Yves Saint-Arnaud est avec nous, il est scénariste, il a souffert aussi de dépression. Merci Yves d'être là.
Épuisement professionnel, dépression majeure, merci de me recevoir Isabelle.
Yannick Daou vient de publier un livre pardon, qui s'appelle « The Random » de l'asile au bout du monde. Merci Yannick d'être là.
Merci beaucoup de me
recevoir.
Un jeune
étudiant en coopération internationale, il a le voyage dans le sang. Il a fait, quand tu t'es rendu compte toi Yannick, que tu avais effectivement un enjeu de santé mentale, tu t'es dit OK, il faut que je me prenne en main, puis je vais voyager. Toi, le voyage, ça a été très curatif, finalement.
Oui, ça a été un peu salvateur pour moi. Donc, à l'époque, j'étais vraiment passionné de basket. Puis, ce qui a fait la transition entre le basket et les voyages, c'est un peu la maladie. Et je me suis dit, c'est pas parce que j'ai une maladie que je vais m'empêcher de faire les choses. Et de par un échange étudiant en France, par rapport à l'université, c'est ça qui m'a donné le goût des voyages. Et suite à ça, ben une série d'années à l'étranger ont suivi. Et ça m'a appris à me connaître, à connaître un peu mieux ma maladie et à mieux agir avec ça.
Comment tu t'en es rendu compte que tu étais bipolaire?
C'est avec une crise. Dans le fond, la première crise que j'ai eue, moi, ça fonctionne par crise. Et voilà, c'était évident. Il fallait que j'aille à l'hôpital, donc je suis allé à l'urgence et tout.
Ça a l'air de quoi, d'une crise bipolaire? C'est comment?
C'est assez intense.
C'est ce qu'on dit au monde. On leur a promis qu'on allait expliquer
absolument,
comment c'était.
Absolument. Ouais,
faut décrire comment c'était.
C'est progressif. Ouais. C'est progressif. Ça commence beaucoup avec le manque de sommeil. Après, il y a de l'agitation. T'sais, les pensées vont plus vite. Tout va un petit peu plus accéléré. Les idées de grandeur et tout ça. Et dans mon cas, à moi, je suis allé aussi vers une certaine psychose. Donc.
Et la psychose, c'est comment?
C'est les détails, vous voulez dire? En fait, on déconnecte un peu de la réalité. Donc, on se fait un peu un espèce de scénario dans sa tête qui est plus réel. Donc, à ce moment-là, on a besoin d'être ramené. Et grâce à la médication, donc moi, j'en prends. Et on se ramène un peu, si on veut, à la réalité. Donc, la première fois que ça m'est arrivé, ça a débalancé mon monde.
Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu es conscient qu'il se passe ça dans ta tête et dans ton corps?
La première fois, non. Ouais. Sur le coup, au début, quand ça arrive, je le vois pas venir nécessairement. Mais maintenant, avec les années, ça fait déjà plus de 10 ans,
ouais,
je suis capable de regarder, si on peut, mon cycle de pensée et d'agir. De pas avoir peur de prendre le médicament ou peu importe, et d'aller chercher de l'aide.
La métacognition, la pensée à nos pensées. Ben oui.
Tu te reconnais là-dedans. Ben oui. Mais il y a bipolaire. Toi, c'est un ou deux bipolaires? Je sais pas, c'est comme...
En fait, il y en a cinq.
Ah oui.
Moi, c'est dans les autres types.
Ouais. Ah oui, toi, c'est quoi?
Ben, il n'y a pas de un ou de deux. Moi, c'est dans les autres. J'en ai pas parlé avec le docteur précisément c'est quoi, mais moi, ça fonctionne vraiment par épisode.
C'est ça, moi aussi. C'est des phases. Dans mon cas, moi, au début, je pensais pas que j'étais bipolaire. En fait, ça fait 6 ans que j'ai fait un épisode dépressif majeur avec psychose. Puis, parenthèse là-dessus, la psychose, comme il le disait, ce qui est la déconnexion de la réalité, l'escalade, tu sais, vers ça, ce qui est fascinant, c'est que ça commence des fois, tu sais, par les peurs. Le sommeil te crée de l'angoisse, tu sais. Puis là, l'angoisse, ça devient petit à petit de la paranoïa. Puis là, la paranoïa, ben petit à petit, c'est la paranoïa qui te fait décoller de la réalité. Ouais. Parce que tu prends tes repères, ils sont plus là, tu sais. Puis de la paranoïa, si tu as une vulnérabilité génétique, si tu as tout le background, le bagage, et que tu n'es pas arrêté dans ton cycle de pensée, tu peux aller jusqu'à la psychose. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment
incroyable. C'est quoi la différence entre... Parce que quand on dit la paranoïa, c'est comme l'expression populaire.
Tout le monde est en train de me regarder, tout le monde est en train de dire que ça, c'est sûr qu'ils font ça contre moi. C'est souvent tout le monde est contre moi. Les complots, c'est, je sais pas dans ton cas, mais ça arrive souvent.
Ouais. En fait, j'ai décrit dans le livre un moment où en Inde, ça m'est arrivé une rechute. Et là, il y a l'espèce de parano pour aucune raison. Là, tu penses que les gens, ils te veulent du mal.
Puis, d'où gens, l'expression, mais là, paranaille pas.
Ouais.
Mais c'est quand quelqu'un a l'impression que tout le monde est contre lui ou contre
elle. Ça peut être autre chose, tu sais, les phobies.
Ou mais les peurs, tu te faisais des scénarios de peur, Florence?
Ben, en fait, je ne me les faisais pas, ils arrivaient.
Ils arrivaient?
Oui.
Ça arrive.
Toi aussi?
En fait, ça peut.
Raconte-nous comment tu as commencé. Moi, essentiellement, c'est un burn-out.
Non, mais je suis content d'être entouré de deux personnes qui ont la sensibilité. Une petite chose, quand on a parlé tout à l'heure, justement, Florence et moi, cette semaine, c'est pas la semaine de la maladie mentale. Alors, c'est important pour les gens de penser à la santé mentale, qui est très large. On parlait des specs, ça va jusqu'à les crises d'anxiété, de panique. C'est pas une maladie mentale, parce que les gens en font, c'est un problème de santé.
La dépendance, parle pas assez.
C'est mieux, effectivement, de raison de souligner, c'est mieux de dire, d'ailleurs, c'est que ça s'appelle comme ça, Semaine nationale de la santé mentale. Et ta santé mentale, à plusieurs...
Et c'est la santé globale, et ça aussi, on va en reparler tantôt, Florence, le CIP, je pense qu'on le sait tous les trois.
Mais parle-moi de toi, comment ça t'est arrivé, toi?
Moi, essentiellement, ça m'est arrivé beaucoup à cause de moi-même, c'est-à-dire qu'au lieu d'être authentique envers moi puis de faire les choses qui me plaisent, je me suis retrouvé rapidement, il y a 7 ans environ, dans un contexte de famille reconstituée qui ne m'allait pas du tout. Donc, ce n'est pas la famille qui est mauvaise, c'est la famille qui ne m'allait pas. Et j'étais dans un environnement qui est devenu pour moi toxique. Et j'ai arrêté de faire mes sports, j'ai arrêté de voir mes amis pour me consacrer à ce nouvel environnement-là. Mm-hmm. Et au fil des années, j'aime la phrase « j'ai pris mon mal en patience au lieu de mettre mon bien-être en urgence ». Et c'est ce qui s'est passé beaucoup. Ouais. Alors, j'étais ferme à l'intérieur, non, je jurais pas. Puis ça sortait, OK, je vais y aller. Puis ça a été des couches et des couches et des couches de ne pas me respecter. Si bien qu'à un moment donné, pour être heureux dans ma vie, je me suis garoché, le terme est juste, dans le travail que j'aime encore. C'est pas le travail qui m'a fait planter, c'est parce que je me suis étourdi dans la production télé que je fais, que j'adore faire, que je continue. Ce qui fait qu'en revenant à la maison, j'étais fatigué, j'avais pas de repos à la maison. C'est devenu le cercle tantôt de ce que mes deux collègues disaient, mes nouveaux amis. Ça commence tranquillement, puis tu rentres dans cette spin-là. Le résultat des courses, c'est que je suis sorti sur une civière à 240 battements par minute. Le cœur est parti parce que je me suis plus écouté.
T'étais
je me suis épuisé. Tête, cerveau, corps, ça a été le breakdown total. Alors, c'est comme ça que je me suis rendu là.
Et je pense que
là étant quoi?
Étant à l'hôpital et 30 jours à l'hôpital parce que je suis rentré dans l'aile de santé mentale de l'hôpital de Valleyfield. Les trois premiers jours étaient là, je voulais mourir, je voulais plus être là parce que je me disais, comment je me suis rendu là? Je m'en voulais à moi et j'entendais à la télévision des émissions que j'écrivais. Je suis dans mon lit d'hôpital. Et quand je suis parti, je voulais plus sortir de là. Tu comprends? Parce que ces gens-là, les gens qui travaillent en santé mentale, les infirmières, auxiliaires, les médecins, les psychiatres, premièrement, c'est le parent pauvre. Hein? On s'entend. De la médecine, ils sont en bas du sous-sol. C'est des gens qui sont fabuleux.
C'est la dernière aile qu'on rénove.
Dernière aile. Ah oui, ma chambre, c'était
c'est pas
l'exorcisme.
C'est bon pour la santé mentale.
Ma chambre, c'était l'exorcisme.
Même dans le deuxième sous-sol.
Ah, non, oui. Il y avait des graffitis, c'est murs.
Oui, dans ma chambre, il y avait des griffes. Dans le Jeep Rock, il y avait des marques de griffes. Et c'est la chambre qu'ils m'ont donnée. Sauf qu'après quelques semaines, quand j'ai su que j'étais dans les mains de gens qui connaissaient ce que j'avais, ben je suis ressorti, puis je me suis rétabli rapidement. On en parlera tantôt parce qu'il y a une hygiène de vie globale à avoir. Sinon, si tu restes là, tu continues à être ferme à l'intérieur, puis mou à l'extérieur, puis tu t'oublies, tu vas toujours rechuter.
Il y a une façon de vivre.
Absolument.
Après. Mais tu disais, je vais revenir, c'est ce que tu disais quand tu es rentré à l'hôpital avec 240 battements. Est-ce qu'on n'a pas une plus grande preuve que c'est la santé mentale, c'est pas juste la santé mentale?
Exactement.
Le cerveau est un organe. Ouais. Et les gens, notre société aujourd'hui fait une séparation distincte entre le corps et la tête.
Absolument.
On est une société de travail mental beaucoup. Le travail physique est de plus en plus remplacé par les machines, mais on oublie que la tête et le corps sont reliés. Donc, quand justement il parlait de la prévention, la prévention, ça passe aussi par s'occuper de son corps, pas juste de son hygiène de vie mentale. Mais je me retrouve tellement dans ce que tu dis.
Moi aussi,
je suis arrivée là, 40 jours à l'hôpital. Je suis rentrée, les trois premières journées, j'étais couchée dans le lit, enfermée. J'étais dans la section où est-ce que j'étais dangereuse pour moi-même, donc sous la tutelle du gouvernement, avec les espèces de graffitis sataniques sur les murs, parce qu'ils n'avaient pas... Mais oui, là, ils l'ont rénové, mais... C'est la dernière étage qu'ils ont rénové.
Ouais.
Et au début, tu te dis, je ne sais pas pour vous si c'était dans ce cas-là,
vous
mais
nous
personne...
Deux.
Non, mais nous trois,
je le sais.
Moi, j'avais l'impression, les trois premiers jours, que personne ne me comprenait, que je n'étais pas malade, puis que c'est eux qui ne comprenaient rien, puis tout ça. Parce que jusqu'à ce que tu fasses la dissociation entre ton identité propre, le soi... Et la maladie, tant que tu ne vois pas la maladie comme quelque chose qui est externe, le problème de santé mentale, tu as l'impression, quand tu es en état de dépendance, en état de
vulnérabilité,
tu as l'impression que c'est toi. Ouais. Et si ton soi est affecté, ton identité, et que l'estime de soi baisse complètement, je veux dire, c'est tellement plus difficile de remonter la pente par
c'est
après.
Ça. Absolument. Moi, quand je suis entré, juste pour ajouter de la valeur à ce que tu dis, moi, j'ai dit au médecin qui m'a vu... traitez-moi pas, c'est inutile, j'achève. Moi, dans ma tête, j'ai dit, écoutez, vous serez jamais capable de me sortir de ça. Impossible. Il m'a regardé. Docteur Billard, que je salue, d'ailleurs, B-I-A-R-D, un homme extraordinaire, m'a dit, je n'ai jamais échappé un patient de ma vie et je ne vais pas commencer avec vous. Et moi, ce qui m'a aidé beaucoup, j'espère que je vais te faire pleurer un petit peu, c'est que j'ai eu Florence en tête.
Mon Dieu.
Toute mon hospitalisation parce que je me suis dit, crime, elle a décrit ça, elle en a parlé, puis elle a passé par où je suis passé, puis j'ai pensé à toi tout le temps.
Mais là, ça me touche tellement.
Ben non, mais c'est correct parce que moi, ça m'a aidé énormément parce que je me suis dit, Florence, moi, j'ai créé, c'est ce que j'aime le plus faire. je suis au sommet de ma santé mentale en ce moment. Je suis créatif, je suis bien, je suis heureux. Mais à cause de gens comme toi, puis de nous trois qui parlons aujourd'hui.
C'est vrai. Puis je pense que c'est important de le dire que ça se vit au quotidien. Puis je rappelle que. Oui, toi, il y a trois ans, tu as écrit un livre justement là-dessus. On s'en était venu en parler à l'émission. Tu as fait plusieurs émissions où tu en as parlé. C'est important d'avoir ces témoignages. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir où aussi tu livres un autre témoignage, Florence, qui s'intitule Mes tempêtes intérieures. C'est 25 personnalités qui témoignent. Et c'est beaucoup d'espoir ce que ça dit, qui témoigne de leur trouble de santé mentale, puis qui dit, on est capable de vivre avec. Oui. C'est pas insurmontable.
Non, puis il y a une façon d'en parler. Ouais. Excuse-moi, je suis tellement passionnée par ce sujet-là. Je ne sais pas venir. Désolée.
Tu vas aimer ça, on va à la pause avec une de tes tunes. You're breaking my heart. Ça, on revient tout de suite après la pause avec vos commentaires. Comment vivre au quotidien avec une maladie mentale, un problème de santé mentale? Vous me le dites, 514-790-9850. On témoigne ensemble de ce que ça veut dire aujourd'hui. À tout de suite. On écoute aujourd'hui ce que nous disent des gens qui ont connu des épisodes où leur santé mentale a été fragilisée. Puis c'est intéressant, je trouve, d'entendre des gens qui nous parlent de santé mentale, qui nous disent qu'on peut passer à travers, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, que c'est pas une fatalité, puis qu'on n'est pas obligé d'en mourir. Il y a des gens qui disent effectivement qu'ils font ressortir le taux de suicide, en particulier chez les hommes au Québec. Exactement ce que Florence K disait tout à l'heure, si on s'occupait un peu plus de santé mentale, en particulier des hommes, mais plus largement. Moi, j'aime pas faire la différence entre les hommes et les femmes là-dessus.
C'est que ça s'exprime différemment.
Moi, je veux pas embarquer là-dedans. Il y a trop de monde qui le font. Moi, ça me gosse royalement. Ouais. Fait que ceux qui disent, comme Guy qui m'écrit, la pauvre femme qui a assassiné sa fille, on l'a échappé tout à l'heure parce que j'ai... Puis qui me dit, Turcotte, lui, c'est un monstre, c'est ça, deux sexes, deux mesures. Non, oui.
Non, Turcotte, c'était aussi des problèmes de santé mentale.
C'est pauvre gars, Turcotte.
Il n'a pas compris.
Mais c'est pas ça le débat, là. On sent vraiment, non. Là.
C'est la santé mentale dans sa globalité. Oui. On va arrêter de mettre un sexe
à ça. Et je trouve
ça
épouvantable qu'il y ait 1000 hommes québécois par année qui s'enlèvent la vie. C'est clair que c'est un vrai problème.
Il y a aussi beaucoup de gens dans le milieu. Moi, j'ai reçu, suite à la publication de mon livre, énormément de courriers. Je veux juste le dire, chaque fois qu'il y a une émission, quelque chose qui se passe comme ça, où est-ce qu'on en parle ouvertement, il y a un impact qui est concret. Mieux, moi, je reçois des mots. Merci d'en parler parce que le partage d'expérience a une valeur. Les gens ont encore honte. Ouais. Les gens se sentent encore coupables. Dans toutes mes conférences où est-ce que je parle, les gens me disent merci d'en parler parce que le tabou est tellement grand. Et ce tabou-là traduit encore un gap, un trou immense entre les croyances et les idées préconçues et la science. Là, on est dans un monde où est-ce que les gens pensent que leurs croyances sont plus fortes que ce qui est prouvé par la science. Oui. En psychologie, en neuropsychologie, en psychiatrie. Je veux dire, donc les gens s'attachent plus à leurs croyances qui sont inculquées dans notre société. C'est pas de leur faute depuis des décennies. Mais tout ce que je voulais dire, en fait, pour revenir à ça par rapport aux hommes, c'est que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des métiers où est-ce qu'ils sont dans... Ce sont les piliers. On parle de policiers, de pompiers, d'ambulanciers. Ouais. On parle aussi de gens, j'ai été parlé dans l'armée également. Il y a encore plus d'hommes que de femmes qui se font ces métiers-là. Il y a de plus en plus de femmes. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui doivent être forts, qui doivent être maîtres de la situation, qui doivent garder leur sang-froid.
Se faire une façade. Ouais.
Mais les hommes, en général, vous avez encore ce fardeau-là.
Bien, on n'est plus. En tout cas, puis je vais parler pour moi, mais je vais laisser quand même...
Je donnerai mon opinion après.
Oui, tout à fait. En fait, les hommes, on a une intensité. Si on peut mettre un sexe là-dessus, c'est que je pense que dans... Puis Florence saura le dire, c'est qu'à un moment donné, pourquoi les gens se suicident, là? T'sais? Moi, je le sais, c'est pas moi qui voulais partir, mais au moment donné, la douleur, la perte de contrôle, c'est même plus toi qui dis, c'est ton corps qui dit, hey, quand tu saignes, il faut que tu désinfectes. Là, c'est ton âme fait tellement mal, ton corps au complet, moi, c'est un épuisement complet, que ce que tu veux, c'est juste que ça arrête. Point. Tempête intérieure, Vanessa en parlait, tu veux que ça arrête. Ouais. Donc, les hommes, on a peut-être ce tempérament-là, je dirais, là, quand c'est le temps, à mon avis, pour certains, de se garrocher en bas du pont, on va le dire comme ça, c'est peut-être plus spontané, spontané. Mm-hmm. Tu réfléchis moins, on dirait, qu'une fille qui va peut-être avoir, surtout si tu as des enfants, la chaîne de pensée est différente.
On a Bertrand avec nous, qui est bipolaire. Bonjour, Bertrand.
Bonjour.
On vous écoute, Bertrand.
Bonne journée à tout le monde.
Merci à vous aussi.
Moi, ce que je trouve, c'est que le problème majeur qu'on a dans notre société, c'est qu'on ne tolère pas la différence.
Ça, c'est vrai.
Ben oui.
Puis c'est ça le problème de la santé mentale. On est différents. Et puis, on a chacun nos moyens de lutter avec nos possibilités vis-à-vis les circonstances qui nous affectent. Mm-hmm. J'ai été 15 ans suicidaire dans une période de 25 ans.
Mm. Oui, oui. Ça, c'est...
Par période de 3 à 5 ans chaque fois. Moi, mon moyen de défense que j'ai en dépression, c'est de dormir.
Mm.
Pouvez-vous me laisser dormir, s'il vous plaît, 17 heures par jour?
Oui.
Les autres comprennent, tu dors trop. Pourquoi trop? Trop par rapport à quoi? La différence des gens, faut accepter les gens soient différents et agissent au meilleur de leur capacité.
Ouais.
Mais on essaie de normaliser les gens.
Et vous avez raison, Bertrand, sur le sommeil. En fait, je sais plus parmi mes invités lequel témoignait de ça, mais que quand on rentre, justement, ils vous donnent un activant, puis ils vous disent dors, ils vous font dormir, dans le fond. Là.
Oui, oui, c'est ça, parce que tu as besoin de récupérer, là, essentiellement, les nuits de 3-4 heures, t'es débalancé, donc t'as besoin de dormir. Et mais éventuellement, c'est que le retour à l'équilibre aussi se fait.
Oui.
Et là, t'es plus apte à réagir et ta tête revient, là, si on veut. Mais si je peux juste faire un retour à ce que notre l'auditeur disait.
Bertrand.
Il parlait de différence à Bertrand.
Oui.
Il parlait de différence. Oui, on est tous différents, je le crois. Mais en même temps, moi, je me vois comme quelqu'un aussi, comme tout le monde.
Ouais.
C'est pas parce que j'ai un problème au niveau de ma tête que je suis différent. Oui, je prends mes médicaments le soir, fait que ça me rappelle que je dois être prudent. On parlait d'hygiène de vie, mes collègues y en parlaient au début.
Oui.
Donc, le sport et tout ça. Ça, je dois mettre un accent là-dessus, mais je me considère pareil comme quelqu'un qui aurait un problème de genou.
Mais voilà,
est-ce qu'on dit quelqu'un qui a le cancer
non,
est
non.
différent?
Ben
santé mentale, c'est stigmatisé.
Mais on a toute notre unicité. Dans le fond, on est tous différents. De toute manière, je suis d'accord avec
mais
ça.
Mais tu sais, on dirait qu'il y a des maladies que c'est quasiment mieux. Tu sais, si on pouvait choisir, il y a comme un palmarès des meilleures maladies puis
ben
des moins bonnes.
Plus facile à identifier.
C'est ce que j'écris dans mon article d'aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Vous irez le lire et le partager si ça vous tente. Mais je parle de santé mentale justement. Puis je dis, est-ce que c'est parce que c'est une maladie de la tête ou du cerveau, tu sais, comme l'Alzheimer. L'Alzheimer au Québec,
c'est
un méchant problème qu'on a. Là. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on met des ressources? Non, ça intéresse même pas. On essaye de faire des... Hein?
On essaye de sortir ça, puis ça marche pas.
Tu te dis, on dirait que le monde veut pas en parler parce que le fait de pas parler d'Alzheimer, tu le pogneras pas, tu sais, comme si c'était un virus.
On n'aime pas voir ce qui n'est pas beau.
La migraine, pareil, je peux vous en parler longuement.
Oui.
15 à 20 % des femmes ont ce problème de migraine. On n'a même pas de moyens. Il y a à peu près... C'est 2-3 ans d'attente, voire un neurologue. C'est-tu parce que c'est dans la tête puis qu'on se dit...
C'est parce que ça saigne pas, Isabelle. C'est juste pour
c'est
ça.
Ça
saigne
ben, je pense
pas.
Qu'on veut pas voir ce qui est
tout,
pas bon. On est dans une société où est-ce qu'on doit... On est photoshopé, où est-ce que quand on gagne 10 livres, on se le fait dire. Quand on passe à la télé, « Hey, t'as pris du poids. » Tu sais, je veux dire, on veut pas voir ce qui est pas selon les normes. Puis ça revient un peu peut-être à ce qu'on disait par rapport à la différence. Alors, la maladie mentale, c'est pas beau. Quand on est à l'hôpital, c'est pas beau.
Non.
On perd nos repères. C'est pas beau. Moi, je me levais pas pendant 3 jours. Je perdais des cheveux. Je pesais 120 livres. Puis moi, j'ai aucun problème à le dire. J'allais pas me brosser les dents pendant 5 jours. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. C'était la seule chose qui me gardait en vie. Puis je me tailladais. T'sais. Est-ce que c'est beau, ça, comme portrait? Ben non, on aime mieux voir Florence Cass sur scène avec des vêtements sponsorisés de grands designers avec du make-up. Puis qui chante merveilleusement bien.
Est-ce que ça a changé, tu dirais, Florence, la façon dont les gens te voient, ton public?
Moi, honnêtement, c'est moi. Moi, je suis moi. Comme je suis Florence dans la vraie vie, puis dans la vie publique, puis il est hors de question que je ne sois pas moi-même. Mmh. Et être moi-même, ça fait partie, ma bipolarité 2 fait partie de moi-même.
C'est qui tu es maintenant.
C'est ça, puis aussi... Dans mes phases d'hypomanie, là, c'est peut-être intense là, quand je suis en hypomanie, mais là, c'est mieux avec les médicaments et la thérapie. Ça, c'est mes phases où est-ce que... Tu sais, moi, c'est des phases de 5 à 6 semaines. Donc, hypomanie, 5 à 6 semaines, c'est de la manie, mais moins intense, par exemple, que quand tu nous disais que tu faisais des push-ups à l'hôpital sans arrêt.
On a dit ça dans la pause. C'est la première fois que je suis rentrée que j'avais appris que j'avais le diagnostic. Et moi, en fait... Dans ma tête, je voyais pas encore, j'étais malade. Je voulais pas l'accepter là au début, j'étais début vingtaine. Et je me suis dit, je vais en profiter, j'ai du temps. Et t'as du temps à l'hôpital. Et là, je me mettais à faire des push-ups sur une jambe.
Je me suis dit,
je vais me mettre en forme. T'sais, j'ai du temps, let's go, on repart. Et là, c'est drôle parce que le docteur, il m'a dit, Tu vas pas ressortir d'ici en meilleure condition. Et là, c'est ça, c'est le processus d'acceptation qui rentre. Mais ça, c'était juste...
Oui, mais je trouve ça intéressant parce que ça, c'est une manie. Mais moi, mes manies, je fais moins de push-up que toi en manie, mais je suis hyper créative.
Oui, oui.
Mes plus grands projets artistiques, mes livres, mes albums, je les ai créés en phase de manie. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Tu sais, honnêtement, entre choisir entre ma carrière puis ma santé, j'aime mieux ma santé.
Ouais.
Mais quand même, il y a un lien très fort entre la... Il y a des neurotransmetteurs, par exemple, qui sont les mêmes dans la schizophrénie que dans la créativité, l'imagination. Ouais. Il y a de plus en plus de liens qui sont créés. Puis après ça, moi, j'ai des phases dépressives, mais avec la médication, c'est beaucoup mieux. Puis une chose de prévention aussi. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic de bipolarité 2, j'étais heureuse et soulagée. Parce que quand on sait ce qu'on a...
Quand ça se nomme quelque chose, ça s'appelle quelque chose.
Ouais.
Quand tu le sais, c'est... Vas-y.
On revient tout de suite après la pause. Je voulais pas vous interrompre, mais on doit absolument y aller. On revient tout de suite après, toutefois. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850. Sans frais partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez à vivre, vous aussi, au quotidien, avec un enjeu de santé mentale. On vous écoute tout de suite après. Comment ça se vit au quotidien quand la santé mentale est chambranlée, fragilisée? Chantal, vous avez un trouble de panique. Agoraphobe également. Expliquez-nous un peu ce que ça veut dire pour vous vivre avec tout ça.
Ah, ça fait 40 ans. À l'âge de 18 ans, je vais avoir 60 ans bientôt.
Mm-hmm.
Moi, je vis dans mon corps quotidiennement comme si je serais dans une prison sans barreaux. Ça veut dire que comme des belles journées comme aujourd'hui, mais je reste à la maison. Dans ma zone de confort.
Mm-hmm. Parce que dès que vous sortez, vous vous sentez pas en sécurité, c'est ça?
C'est parce que tout le temps, on pense, beaucoup de gens pensent que quand on souffre d'agoraphobie, on a peur de la foule. Non, c'est pas ça. On a peur de faire une crise d'angoisse.
Ouais. Devant tout le monde. Devant tout le monde.
Devant tout le monde. C'est gênant parce que là c'est aidez-moi, je vais mourir. Bon. Mais j'ai l'habitude de comme un peu de vivre avec ça,
mm-hmm.
Mais ça m'enlève des belles opportunités. Puis j'ai une longue liste de défaites quand il y a du monde qui me demande d'aller quelque part. Hein,
ouais. Vous isolez, puis donc ça devient un cercle vicieux finalement. Est-ce que vous avez des soins médicaux appropriés, Chantal?
J'ai de la médication, mais de moins en moins ils veulent m'en donner.
Mm-hmm.
C'est pas bien grave, mais il y a juste une chose que j'aimerais que le monde hospitalier, pas les psychiatres, moi je veux dire les infirmières, les omnipraticiens dans les urgences, quand ils reçoivent une personne agoraphobe qui fait de l'angoisse, mais qu'ils ont un problème réel physique. Puis qu'on se rend à l'hôpital, ils ne nous croient pas.
Mm-hmm.
À cause qu'on fait de l'angoisse. C'est un trouble d'angoisse.
Ça saigne pas.
Ouais.
Ça saigne pas.
Il y a comme une condescendance aussi. Des fois.
Mais je pense que c'est parce que les médecins, c'est un peu peut-être le fait de ça saigne pas. Quand ça saigne, au moins, ils ferment puis ils mettent un pansement. Oui. Mais comme c'est dans la tête, la seule façon d'aller voir, c'est une fois mort. Qu'est-ce que tu veux?
Ouais, mais c'est ça.
Alors, je sais pas, c'est comme si c'était c'est leur impuissance. Ils ne peuvent rien faire.
Non, mais je pense qu'il n'y a pas assez de ressources. Parce que ce qui est important, oui, il y a la médication. Mais la médication sans suivi, sans thérapie.
Et voilà.
La thérapie cognitivo-comportementale, dans mon cas, qui a été, je veux dire, c'est le jour
et la nuit.
Pour consulter,
c'est ça que tu dis.
Oui, mais alors, comment on fait pour consulter quand il y a des listes d'attente de moi au CLSC, au public?
Oui.
Ça veut dire que tu as de meilleures chances de t'en sortir si tu as de l'argent. Pour aller chez un psy deux fois par semaine.
Il faut savoir aussi qu'au Québec, on est chanceux.
Yannick, toi, t'as voyagé.
Oui, c'est ça, toi, t'es
assis.
Lui, c'est pitché en bas d'une falaise en bungee. Bon. Chacun son trip.
T'es dans les pays que je suis allé, comme par exemple, quand j'étais en Inde.
T'as fait le tour du monde, ouais.
Ouais, dans une cinquantaine de pays. Quand je suis allé en Inde, ben, le système, tu sais, j'ai été chanceux. C'était quand même un bon système médical, mais il y a d'autres pays que j'aurais aimé, disons, moins tomber malade.
Tu dis en Inde, c'est un bon système médical?
Ben, parce que j'ai eu un épisode en Inde, Moi, j'ai été pris en charge là-bas. C'était pas un hôpital comme ici, psychiatrique. C'était un hôpital régulier. Ouais. Mais il y avait des gens super compétents qui ont été capables de voir ma médication, de me prendre en charge et tout. Et ça a bien été. Il y a d'autres pays, par contre, qui sont peut-être moins outillés. Ouais. Pour faire face à ça. Donc, au Québec, je pense
comme
qu'on
chez
est
nous,
chanceux.
Je pense.
Ben, comme
donc,
chez
toi,
tu allais
dire on est chanceux ici.
Ben, moi, je dis que je pense que oui, avec un psychiatre. C'est ça. Bon,
ben, il faut que ça reste. C'est 2 à 3
ans
d'attente.
Il faut que tu le trouves, le psychiatre.
Ben, c'est ça. Moi, peut-être que c'est une chance que j'en ai un puis que je suis suivi et tout. Mais je pense que comparé à d'autres pays dans le monde, tu sais, si on mettons, je veux pas généraliser, mais il y en a d'autres qui ont moins de d'outils.
Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de psychiatres. Hein?
Bien, on n'a pas beaucoup. Yves, puis ce que je trouve intéressant, puis je fais du pouce sur ce que mes deux amis disent, qui est très intéressant, c'est que quand tu as un problème de santé mentale, quand, dans mon cas à moi, c'est un épuisement qui a conduit à une dépression majeure, pour entrer dans le système, là, parce qu'un omnipraticien, c'est des bons médecins, mais ils font une journée de cours en psychiatrie, alors va voir tout de suite le psychiatre. Comment ça fonctionne? Prends pas un rendez-vous. Tu l'as dit, Isabelle, ça prend 2 ans. En 2 ans, quand j'ai appelé, moi, qui m'ont dit, monsieur, ça va prendre 6 mois à 2 ans, j'ai dit à madame, je vais être mort. Elle a dit, non, parlez pas demain. Ben oui. Donc, ce qui a fonctionné pour moi, ben, dans mon cas, ça a été l'ambulance, mais pour des amis, c'est de se rendre à l'urgence. Ouais. Aller chez Albert
puis
Prévost.
Puis il faut que tu dises que t'es suicidaire.
Oui, oui,
là,
t'es dangereux pour
toi.
Ouais. Là, ils te prennent au sérieux, puis tu vas être embarqué dans la machine.
Mais il faut que tu te rendes là, c'est ça qui est plate.
Sinon, tu.
Non, mais les amis, ils vont vous donner de l'ativant, puis quand vous avez.
Non, pas vraiment. Non, 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 non. Quand tu vas voir le gars, le psychiatre ou la psychiatre, qui tu lui dis, là, moi, je suis dangereux pour moi puis pour mon entourage.
Ils te prennent au sérieux.
Ah, ben oui, ils vont te ramasser par le dos de la cravate puis ils vont te garder s'il faut. Mais tu vas être, mais il faut te rendre là. Si tu te rends pas là.
Ils vont te garder, mais ils vont te relâcher quand ils vont penser que t'es correct.
Ben, non,
moi, je suis allée 3 fois avant d'être hospitalisée. Je suis restée 1 semaine dans les couloirs de l'hôpital à l'urgence parce qu'il n'y avait pas de place en psychiatrie.
Un couloir.
Oui, pendant une semaine, le nouvel an 2012. Ben oui, pendant une semaine, puis j'avais pas de douche, j'avais pas accès à des douches, j'avais pas accès à rien. Dans un lit.
La Bosnie, là.
Oui, oui. Puis je veux dire, c'était pas le fun, là. Puis ça m'a pas aidé ma santé mentale.
Non, non, non.
Pas en tout.
Tu dors plus.
Non, non, tu dors plus. T'as les néons en plus déjà. Exact. Fait que là, j'étais tellement médicamentée. Heureusement, tu sais, des doses d'antipsychotiques, des doses d'activants, des doses d'antidépresseurs.
Ouais.
Je veux dire que tu évites, mais c'est. Tu sais, je suis sortie, moi, après ça, après une semaine, j'ai supplié mon médecin de me laisser sortir. J'étais plus capable d'être dans l'urgence. J'étais plus capable. Et là, après ça, ça a pris 6 jours que j'ai fait une psychose. Puis là, c'est l'ambulance qui est venue me chercher. J'étais en train de préparer quelque chose pour pouvoir m'enlever la vie.
Oui.
Ma famille qui me gardait quand même. J'étais dans le sous-sol. Ma fille était prise en charge pendant ce temps-là par d'autres membres de ma famille. Mais comme l'hôpital m'avait relâché, ils se disaient, bon, mais ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. J'étais en train de préparer quelque chose pour pouvoir me pendre.
Partir.
Je vous le dis, sérieusement. Oui. Et là, mon oncle est descendu en bas. Il a vu ça. Il a appelé l'ambulance. J'ai refusé d'embarquer avec l'ambulance parce que t'es tellement perdu.
Exact.
La sensation, là, puis vous allez comprendre ce que c'est. Tu n'as plus de repères, tu ne vois plus, tu n'entends plus, tout tourne autour de toi. Alors, tous ceux qui disent que c'est des faibles et puis qu'il faut que se reprendre en main, on s'excuse, je vais le dire, le gros mot, c'est de la bullshit. D'un c'est vrai. De l'ignorance. Absolument. Par rapport au sujet. Et la police est venue. La police m'a emmenée. J'ai été emmenée de force par la police. Ça, c'était janvier 2012.
Ouais.
Ça fait 6 ans. Et la preuve que c'est une maladie qui se traite et qui se soigne, c'est qu'on est ici aujourd'hui.
C'est moi, je l'ai juste rajouté par rapport à ça. Vous avez vécu peut-être des difficultés au niveau du système de santé, mais ça, c'est mon point. Moi, je trouvais que on a quand même bénéficié des soins. On est les trois présentement à la radio en train d'en parler.
Ça,
et on fonctionne tous bien. Absolument. Donc, quelque part, c'est qu'il y a mille positifs.
Moi, j'en reviens au taux de suicide
des
hommes au Québec.
Il faut que ça arrête.
Il y a 1 000 hommes qui s'enlèvent la vie.
C'est 1 000
de
trop.
Et moi, je pense qu'il y en a certainement plusieurs centaines là-dedans qui ont été échappés par le système. Là.
Certainement.
Mais si on enlève le
tabou. Peut-être aller à l'urgence. Parce que l'urgence, c'est fait pour être... Tu es là 24 heures, puis après, tu ressors. Qui t'arrange?
Ou une semaine.
Ils vont te le dire. Non, mais ils vont te le dire. T'es chanceux, c'est une semaine, mais ça va être le corridor. Mais ils vont te le dire, regarde, sortez, parce que là, à court terme, on ne peut plus rien pour vous. Parce que si tu restes plus de 24 heures, tu tombes dans la deuxième colonne de statistiques de plus de 24 heures, puis c'est pas bon pour la statistique. Dieu.
Oui, non, mais c'est ça. Il y a quelque
chose fait de même, c'est mal fait. Mais après, est-ce qu'on a des bons soins au Québec?
Mais moi, je trouve plein d'organismes. Hier, j'étais à la Fondation Équilibre au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que j'avais une conférence. Je fais beaucoup de conférences dans des centres et puis des ressources externes qui font des levées de fonds. Mais ça, c'est des gens là qui des ressources communautaires, qui des gens dans des villes partout à travers le Québec qui se mettent ensemble. Puis ce sont des ressources à ne pas négliger. Et il faut en entendre parler de plus en plus de ces ressources-là. Elles sont importantes.
Et du soutien aux gens aussi qui ont les gens qui ont une maladie mentale, les conjoints, les enfants, tout le monde, c'est des victimes collatérales parce qu'ils ne savent pas comment dealer avec ça, puis eux-mêmes vont être affectés éventuellement. Ouais. Alors, il faut vraiment mettre un push là-dessus.
J'ai une amie qui m'écrit, elle avait 21 ans quand elle a pris quelques puffs de marijuana. Elle dit, j'ai fait une crise d'angoisse. Je ne savais pas ce que j'avais. Les mois qui ont suivi, j'ai développé de l'angoisse généralisée. Je me suis retrouvée en psychiatrie à l'hôpital. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je pense que les jeunes doivent être plus informés et sensibilisés sur la marijuana. Attendez tout à l'heure. Ça va être quelque chose.
La schizophrénie chez les jeunes hommes, à l'hôpital, il y avait 5 des jeunes hommes avec qui j'allais fumer qui me racontaient que leur schizophrénie a été déclenchée
par
de la dope.
Ouais, mais on dit que non. On est avec Tara, qui est une ex-ambulancière. Bonjour, Tara.
Bonjour à vous.
On vous écoute.
Je voulais commencer par vous dire bravo pour l'émission, mais aussi merci pour l'authenticité. Puis de parler de vos, comment je les appelle, les étiquettes aussi ouvertement avec tout le monde. Ça fait du bien pour ceux justement qui souffrent de tout ça. Vite fait, c'est ça. Je suis ancienne ambulancière. Mon conjoint est policier. On a vécu un drame il y a 5 ans dans notre vie qui s'est comme mêlé avec nos emplois. Ce qui a fait en sorte que les deux, chacun de notre façon, à notre façon aussi, on a développé des problèmes de santé mentale. Choc post-traumatique sévère, dépression chronique, anxiété généralisée, et ainsi de suite. Notre chance, nous, a été que l'un et l'autre, on savait comment on était habitué de dealer, dans le fond, avec des gens en crise ou quoi que ce soit. Fait qu'on était aux aguets des risques qui nous guettaient, dans le fond. Je suis tombée enceinte et là, de mon troisième enfant, et ça a été encore plus dur. Puis là, j'ai eu des idées de suicidaire. Mon conjoint m'a rentré à l'hôpital, presque en P38, là, comme on dit. Ouais. Je me souviendrai toujours du psychiatre qui dit à mon chum, il dit « Est-ce que tu lui fais confiance? » Puis mon chum dit « Non, je lui fais pas confiance parce que il avait peur que je m'enlève la vie. » Ça m'a frappée. Finalement, j'ai quand même pu retourner à la maison, mais j'ai fait des choix en fonction, justement, de m'en sortir. Je suis rentrée en maison de thérapie pendant un mois fermée, loin de mes enfants. Ça a été très dur, mais ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. C'est une maison de thérapie, la Vigile à Québec, qui est spécialisée, justement, comme vous avez parlé tantôt, policiers, pompiers, paramédics et les gens de l'armée.
Ah oui! Donc, la Vigile à Québec.
Post-traumatique.
La Vigile à Québec,
Ah ben c'est vrai que vous vivez des choses incroyables au quotidien.
Oui, ce que vous voyez tous les jours.
C'est dans notre personnel. C'est pour ça que c'était comme difficile de
c'était sur tous les fronts. C'est ça, hein?
De faire la différence entre qu'est-ce qui est le travail et qu'est-ce qui est la vie personnelle. Avec eux, on a réussi à démêler. Mon conjoint a dû y aller, lui, un an après pour lui aussi, mais il y a de l'espoir. Il faut seulement... Oui, je sais que c'est dur à dire.
Il y a toujours de l'espoir.
On va chercher la bonne aide, on a toutes les chances.
Merci, Tara, merci beaucoup de votre témoignage. Et c'est là où Yves Saint-Anneau parlait de tout le réseau qui est important. Oui. C'est comme d'autres choses, c'est qu'il faut, écouter. Mm-hmm. Il faut aller, les gens vont...
Il faut discuter,
puis il faut en parler, puis il faut soulever le tabou. C'est ça qu'on essaie de faire un peu ce matin.
Un petit conseil, excuse-moi Isabelle, un conseil que je donne, parce qu'on est limité dans le temps, mais quand ça va pas, c'est plus qu'une déprime de 3 jours. Quand tu sens que c'est un cercle qui commence, va-t'en à l'urgence de l'hôpital.
Mais tu sais, des gens partant.
Psychiatrique, pas l'urgence, pas l'urgence.
On dit tous les jours aux gens, puis comment ça va?
N'hésitez pas.
Les gens vont dire ça va, mais dans le fond, si tu dis ça va pas, faites le test, ils vont faire
Moi, je le dis. J'ai une journée de...
mentir. On a le droit d'avoir des journées de marre. On a le droit.
Ça fait partie de la
vie. Puis le fait de le dire, on a le droit de le dire aussi. Ça veut dire que demain, ça va être ça aussi. Exactement. Bon. Mais là aussi, il faut aller, c'est que la personne qui entend que tu as une journée de marre, il faut pas qu'elle s'en aille en courant.
Il faut qu'elle dise pourquoi.
Puis engage la conversation. Moi, cette semaine, je voudrais que vous engagez la conversation.
Bonne idée.
Je veux juste dire que toi, tu as une belle nouvelle. Tu vas te marier. marier au mois de novembre.
Je me marie au mois de novembre.
Mais attends, puis en même temps, tu sors un disque?
Oui, dans un mois. Estrellas, ça veut dire des étoiles. Et juste pour faire une parenthèse, donc mon fiancé qui est un amour, quand on a eu mon diagnostic de bipolarité type 2, on est allé consulter ensemble pour faire de la prévention.
Voilà.
Et lui, il a lu deux livres sur cette condition mentale. Et maintenant, il sait ce qu'il faut faire si j'ai un changement de phase et comment lui se protéger à travers tout ça.
C'est ça.
Moi, je laisse mon adresse courriel à ta recherchiste. Les gens qui ont besoin d'un petit insight, je leur donne gratuitement.
Parfait. Hey, merci beaucoup.
Merci,
le random de l'asile au bout du monde, c'est le récit de voyage de Yannick Daou. Franchement, ça nous donne envie de partir, Yannick.
Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment gentil.
Merci beaucoup, Florence.
Merci
à tout le monde. Oui, merci bien. Bonne semaine. On se retrouve demain.
Au revoir.